je n'ai pas compétence, je ne prétendrai pas répondre, mais ce que je dirais volontiers là, c'est que, pour, en tout cas, ce qui intéresse Bataille dans le surréalisme, c'est certainement Breton comme personnage, pas seulement comme tissu de langage poétique. Mais les peintres également, oui, enfin Dali, etc. Mais le personnage de Breton, je crois, est privilégié pour Bataille dans une mesure que j'essaierai de décrire par référence au terme de souverain. Je pense que Breton, pour Bataille, c'est le souverain. Et ce mot pour Bataille signifie beaucoup. Cette espèce de hantise théorique qu'a la pensée de Bataille pour la question de la souveraineté. Au niveau de la littérature, ça se rattache à la personnalité de Breton. Et ce texte très étrange que nous avons publié dans ce numéro 7 de Change, qui a fait couler un peu d'encre et un peu de salive, enfin, qui a suscité un certain nombre de réactions, montre ça, je crois, de façon assez singulière. C'est ce qui, moi, m'a fasciné quand je l'ai découvert. Tout à fait par hasard, d'ailleurs, enfin, en regardant les archives Bataille, avec ceux qui en ont la garde, on avait l'impression que Bataille n'en avait pas fini avec Breton, malgré le fait qu'il écrivait ça au moment où ils étaient réconciliés, où il se voyait comme dans les termes où Alain, je crois, l'a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire où il se rendait hommage publiquement, où il se parlait avec une grande déférence et une reconnaissance mutuelle, évidemment. Et cependant, Bataille n'en avait pas fini avec Breton parce que, pour lui, Breton, c'était le roi. C'est le personnage royal, celui qui peut affirmer une souveraineté sur le langage de tout son temps, et également sur tout un groupe. Sur un groupe qui se défait sans cesse, mais qui est tout le temps dominé par la même personnalité. Alors que dans le cas de Bataille, c'est l'inverse. Bataille est toujours là, mais ce sont les groupes qui... il va de groupe en groupe, n'est-ce pas ? Il traverse successivement un certain nombre de cercles, peut-être infernaux, tout ça, mais lui est toujours un peu en dehors de ces groupes, même de ceux qu'il fonde. Et alors, ce texte sur le surréalisme au jour le jour est à certains égards décevant parce qu'il ne parle pas du surréalisme en tant que phénomène global, en tant que... Là, il en parle à travers des figures. Il y a quatre figures pour lui. Et pourquoi ces quatre, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Il y a le roi, il y a Breton. Il y a Léris, qui est son ami surtout, et qui est celui qui l'introduit auprès du roi. Et puis, il y a un personnage qui est Aragon et qui est une sorte de prince, dont on ne sait pas d'ailleurs le rapport exact au roi à ce moment-là. Et curieusement, Bataille ne se pose pas du tout la question de la rupture entre le roi et le prince, disons, entre Breton et Aragon, ça n'a pas l'air d'intéresser du tout. Et il y a un quatrième personnage qui est Artaud, et alors qui est quoi ? Enfin, qui est le fou, évidemment, qui est la folie elle-même, et qui d'ailleurs effraie Bataille d'une certaine façon, et en même temps le passionne au plus haut point. Et alors c'est cette espèce de groupe de quatre qui forme un groupe au sens plein du mot pour Bataille, c'est-à-dire un groupe avec un noyau sacré et une espèce d'énigme au milieu de ce groupe qui fait que ce groupe tient toujours, même s'il se défait. C'est ça qui fascine en grande partie Bataille dans le surréalisme, c'est le fait qu'il soit précisément un groupe sacré, un groupe relevant de la sociologie du sacré. Ce que Bataille voulait faire dans la Céphale, qu'il n'a pas fait. Il l'a fait qu'alors à une échelle tout à fait infinitésimale, autour de l'or et de son amitié alors tout à fait privilégiée pour Klosowski ou pour un ou deux amis. Mais ce phénomène de groupe capable de durer sur 20 ans et de produire toute une série d'accidents historiques, ça, c'est un phénomène de type sociologique qui intéresse Bataille en tant que fondateur de la sociologie du sacré.
Moi, je trouve assez judicieux, la construction élaborée par Faye à l'instant, à cette différence que le jeu de mots sur souverain à l'égard de Breton ne me choque. Parce que s'il y a eu quelqu'un de souverain comme ça dans les gens qui nous importent et qui sont morts, je crois que dans le sens où l'entendait Bataille, et quoique d'une façon très différente, ça peut être Marcel Duchamp à la rigueur. Mais le souverain breton, le roi breton, le prince Aragon, on a trop entendu ça. Et ça masque ce qu'est le surréalisme, c'est-à-dire quelque chose de tout autre aussi dans le sens où Bataille employait cette expression. Et le pape, le pâtre, le roi, tout cela, c'est faux. Breton exerçait, bon là je ne l'ai pas connu, mais tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont connu peuvent en témoigner, une autorité, c'est certain, mais en aucun cas on ne peut de façon tout à fait juste le qualifier de roi.
Je pense, oui, mais attendez, j'entends souverain au sens de Bataille, c'est-à-dire l'opération souveraine.
Non, parce que vous avez dit souverain, le roi, ensuite non, le roi, le prince, en plus.
Mais souverain au sens bataillien, oui.
Oui, ben alors là, moi.
C'est-à-dire ensuite, l'opération souveraine, c'est facile.
Ensuite, j'aimerais qu'on parle effectivement de l'opération souveraine et des choses sérieuses.
Mais, je voudrais dire en particulier que alors, je suis absolument en désaccord avec Jean-Pierre Taille.
J'espère bien.
Breton n'a absolument rien qui corresponde à ce que Bataille entend par souverain. La théorie de la souveraineté chez Bataille a un modèle qui est le modèle tiré du rameau d'or de Fraser qui est Dianus. Le souverain, c'est celui qui meurt. Ce qui définit la souveraineté, c'est l'échec. C'est la mise à mort.
Eh bien, un cadavre alors.
Oui, mais enfin là.
Ah, c'est un sacré mort.
Oui, mais enfin. Disons alors. Enfin, que cette souveraineté alors, se prise dans un réseau dialectique. Mais enfin, c'est un moment précis.
Le souverain meurt, mais il remet toujours. C'est ce qui est la Breton.
Non.
Je crois que la petite construction que Faye vient de construire devant nous est extrêmement révélatrice. Parce qu'en fait, elle montre bien ce qui oppose fondamentalement Bataille et Breton. À savoir que le groupe surréaliste était un groupe qui avait une tête, que la communauté que souhaite Bataille, et précisément c'est pour cela qu'elle n'existe jamais, est acéphale. Je crois que fondamentalement, ce qui a toujours déçu et opposé Bataille au surréalisme, c'est que le surréalisme ne pouvait pas soutenir son exigence, précisément dans la mesure où constamment il avait besoin de fétiches. Et disons que le grand fétiche surréaliste aurait été Breton, la tête principale.
Enfin, je pense que le journalisme a fait pas mal de mal dans l'élucidation de la structure, enfin du plus exactement, de l'apparence sociologique de ce qu'a été le groupe surréaliste. On a parlé en effet des papes, on parle maintenant de souverains dans une acception bataillienne ou autre. Je pense qu'il y aurait un jour un travail de démystification à faire quant au rôle de Breton à l'intérieur du groupe surréaliste. Il est absolument évident qu'il en a été le théoricien essentiel et que sans lui il n'y aurait pas eu de surréalisme. Il est aussi absolument évident que sa pensée était une pensée qui se fomentait uniquement dans un milieu étroit qui constituait le groupe. Si bien que, pour répondre à votre question, enfin que vous posiez tout à l'heure, Breton ait été l'interlocuteur privilégié dans le surréalisme de Bataille, ça allait de soi. Mais Bataille visait aussi, et j'en porterai comme témoignage un des articles de critique qu'on a cité tout à l'heure, qui faisait état d'un texte collectif de 1947 à la niche Les Glapisseurs de Dieu, texte sur lequel Bataille se penche longuement, en extrait l'essentiel et en donne un écho théorique de la plus haute importance. Ce texte, qui a été signé collectivement par le groupe surréaliste, ce texte n'a pas été rédigé par Breton. Alors, c'est dire que dans les dialogues entre, enfin, le sujet de cette réunion Bataille et le surréaliste, bien que tout l'accent soit mis sur Breton, ça va de soi, mais que Bataille, ne serait-ce que dans les rapports privilégiés qu'il entretenait en effet avec Léris, avec Masson et avec quelques autres, Bataille était intéressé par certains aspects originaux des pensées de certains membres des groupes surréalistes, mais en fait, à quoi voix attendue dans le projet surréaliste auquel je faisais allusion tout à l'heure. Quel est-il ce projet? C'est d'arriver à une pensée commune, d'arriver à une sorte de pensée anonyme, une pensée collective. Ça a été le projet dès l'origine, ne serait-ce que par la pratique de l'écriture automatique. Bien, il ne suffit pas de décréter qu'on vise à la pensée commune et à la pensée plurielle, comme dit Blanchot, et à la pensée anonyme, pour que du jour au lendemain, ça soit fait. C'est en ce sens que le surréalisme est un projet et est une élaboration vers cette pensée commune. Et il me paraît au contraire très dialectique que dans cette phase d'élaboration, pour atteindre ce but, les personnalités se soient manifestées de telle manière, personnalités de théoriciens incomparables comme l'a été Breton, personnalités de poètes extrêmement, avec une voix unique comme ont pu l'être Artaud et Perret. Enfin, je ne fais pas de distinction dans les genres là, mais enfin j'essaye d'accrocher des choses qui paraissent les plus évidentes. Je crois que dans la première phase, parce que quand Bataille dit quelque part « maintenant le grand surréalisme commence », je crois qu'il a tout à fait raison. Le surréalisme n'a pas fini d'exister, n'est-ce pas? Il y a une sorte de surréalisme éternel qui part d'Héraclite et qui va beaucoup plus loin que la vie des groupes et que la vie de Breton. Eh bien, à partir de la prise de conscience de la nécessité d'aboutir à une pensée plurielle, caractérisée historiquement par l'exploitation, je ne dis pas l'invention, mais l'exploitation de l'écriture automatique, il y a nécessairement une phase où, paradoxalement, les personnalités s'affirment. Et celle de Breton, bien sûr, s'est affirmée de manière exemplaire, particulière et très marquée. Ce qui a fait que Bataille, homme à la recherche de groupe, mais qui a été, lui, au contraire, toujours un solitaire, s'est trouvé tout naturellement dialogué d'une manière privilégiée avec Breton, plutôt qu'avec tel ou tel autre.
Oui, enfin, je voudrais quand même rectifier quelque chose. Enfin, que Breton était un des interlocuteurs de Bataille, c'est certain, privilégié. À partir de 1949, Bataille n'écrit plus rien.
Dans le surréalisme.
Oui, non, mais ça c'est plutôt encore à Jean-Pierre Frey que je réponds. À partir de 1949, effectivement, entre 1945 et 1949, il y a beaucoup d'articles qui suivent, mais après 1949, Bataille écrira énormément et il ne parlera plus de Breton. Il pourrait peut-être s'interroger également pourquoi ces 4 années d'après-guerre ont été des années de dialogue avec Breton et tout d'un coup, Monseigneur s'interrompt, Bataille prend autre chose.
Hegel n'a pas été deux fois la phénoménologie de l'esprit. C'est complètement ridicule comme argument.
Non, parce que Bataille a écrit plusieurs fois le même article sur Breton.
Non, il en a écrit des écrits après 49.
Il me semble
oui, enfin, oui.
Un fortin portant un beaucoup de canons.
Il s'est enfermé dans sa chambre, n'est-ce pas? Il avait mis à l'extérieur, n'est-ce pas?
Je ne reçois pas même sur rendez-vous.
C'est ça pour les emmerdeurs seulement.
Non, mais je voudrais reprendre tout ce qu'a dit Jean-Pierre Fay à propos de l'économie politique de Marx, du surréalisme de Bataille. Je n'arrive pas très bien à comprendre que, par exemple, le mot dialectique, qui est revenu là sur le tapis tout le temps, serve si bien d'échappatoire à une absence de pensée fondamentalement antidialectique dans tous les sens possibles du terme, puisque ce qui est dialectique d'abord, c'est de penser en général. Alors, je voudrais que quand on parle de Hegel, on ne voit pas simplement dans Hegel quelqu'un qui a pu formuler une pensée comme celle sur Napoléon, donc vous savez la suite. Je veux dire que lorsqu'il y a, par exemple, une attitude de Bataille à l'égard du stalinisme, cette attitude est dictée par une motivation intérieure qui s'appelle l'expérience intérieure et qu'il ne s'agit pas simplement d'un discours de salon ou même d'une rencontre, de savoir s'il y a effectivement quelque chose qui est valable dans la théorie exprimée du stalinisme, puisque ce qui compte au niveau de Bataille pour le stalinisme et ce qui en quelque sorte justifie son attirance, pas pour le stalinisme mais pour la reconnaissance du fait stalinien, c'est que avec le stalinisme, c'est la tendance inconsciente de la société qui a triomphé, pour l'opposer par exemple au trotskisme. Alors, cette tendance inconsciente, cela a une signification réelle pour Bataille. Il ne s'agit pas simplement de savoir s'il est hegelien ou pas hegelien. Quand on est hegelien, d'abord on ne dit pas des bêtises pareilles. Ensuite, il ne s'agit pas de savoir si Bataille est hegelien ou plus hegelien que Breton. Il s'agit de savoir, par exemple, si ce qui est la pensée de Bataille constitue effectivement une recherche dans le sens de la pensée possible, plus possible que celle de Breton. À ce moment-là, nous pourrons discuter. Nous ne pourrons pas discuter si il s'agit de savoir si Hegel a lu Kojève ou non, si Bataille a lu Kojève mieux ou plus mal que Breton. Il s'agit de voir ce qu'ils en ont fait. Il ne s'agit pas de savoir s'ils ont suivi des cours à l'université. Il s'agit de savoir si actuellement la lecture de Hegel peut être quelque chose et peut être incorporée à la pensée, telle qu'elle peut se formuler aussi bien au niveau primitif qu'au niveau actuel dans une société donnée, qu'elle soit capitaliste, communiste ou autre.